Europe Soir,
le 18-20,
Isabelle Millet.
18h45, c'est la suite de notre débat des grandes voix du lundi sur Europe 1. Toujours avec Michel Cotta, toujours avec Jean Garrigue et toujours avec Pascal Perrineau. On discutait un peu pendant la pub, c'est normal. Je voudrais qu'on revienne avec vous, les grandes voix, sur ce débat qui agite l'enseignement supérieur et la classe politique depuis plusieurs jours. En fait, depuis que la ministre Frédérique Vidal a dévoilé son intention de demander une enquête au CNRS sur l'imprégnation de l'islamo-gauchisme au sein de l'université. Afin, a-t-elle dit, de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Alors j'aimerais vraiment, vraiment qu'on essaye de ne pas hystériser le débat parce qu'on a vu que ça partait un peu dans tous les sens ce week-end. Et surtout qu'on comprenne bien de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne très bien ce qu'ils disent. Et ça tombe bien, j'ai deux universitaires avec moi qui vont nous aider à y voir posément, à y voir clair. On va faire ça de façon sereine. D'abord, expliquez-moi vraiment de quoi parle-t-on, qu'est-ce que ça veut dire l'islamo-gauchisme. Pascal Perrineau.
Écoutez, c'est quelque chose sur lequel des chercheurs ont travaillé il y a bien longtemps, à l'époque où il n'y avait pas cette hystérie. Aujourd'hui, où tout se dit et donc rien ne s'entend. Il y a eu en France Pierre-André Taguieff qui, dans un livre qui s'appelait « La nouvelle judéophobie », a constaté un phénomène qu'il a qualifié de cette nature, islamo-gauchiste, en disant, voilà, autour de la solidarité d'une partie du gauchisme avec le combat des Palestiniens, on voit dans certaines organisations, et il parlait surtout de la Ligue communiste révolutionnaire, l'ancêtre du NPA d'aujourd'hui, on voit des convergences, des luttes en commun entre cette frange du gauchisme et l'islamisme engagé. Ce qui fait que dans certaines manifestations, on s'est mis à entendre ensemble l'international et les cris de Allah Akbar. Vous voyez, ce qui, a priori, n'était pas tout à fait évident. Et puis, du côté militant, et là depuis beaucoup plus longtemps, en Grande-Bretagne, en 1994, il y a un universitaire qui était très engagé, très militant, trotskiste, là aussi. Il appartenait au petit Parti socialiste des travailleurs, et qui s'appelle Chris Harman. Et qui a écrit un petit libelle qui s'appelle « Le prophète et le prolétariat », dans lequel il développait une analyse que l'on retrouve, bien sûr, dans une partie du mouvement gauchiste en France, qui consiste à dire, dans le combat contre l'impérialisme, le capitalisme, l'État qui est à leur service, il y a des convergences à développer entre les révolutionnaires qui défendent le prolétariat et ceux qui considèrent que le prophète est insulté, les islamistes. Et cela doit l'emporter, disait Chris Harman, sur les distances qu'il peut y avoir entre ces deux mouvements, là où les islamistes, sont dans l'opposition, nous devons être avec les islamistes, avec l'État, jamais. Donc les choses sont claires, c'est bien un phénomène qui existe. Alors, de là à dire qu'ils sont partout, qu'ils dirigent toutes les universités, non, voyons, il faut...
Alors, pourquoi cette expression est-elle à l'origine d'une telle polémique parmi les intellectuels et la classe politique, Jean Garrigue?
Alors, moi, je souscris totalement à ce que vient de dire Pascal. Première chose, c'est quelque chose qui vient du milieu des trotskistes britanniques, à l'origine, bon, et qui est ensuite analysé par Pierre-André Taguieff.
Ça, c'est récent, c'était en 2002, Pierre-André Taguieff.
Oui, voilà. Il est vrai qu'existe aujourd'hui, dans les universités françaises ou dans les instituts d'études politiques, que connaît bien Pascal, il existe un certain nombre d'associations, de militants aussi, de syndicalistes et étudiants, qui ont pris notamment fait et cause pour la cause palestinienne et de ce fait se sont rapproché leur extrême gauche des positions islamistes. Ça a été très bien expliqué. C'est une maladresse insigne de la part de la ministre, me semble-t-il, d'avoir posé le problème en ces termes parce que j'ai l'impression qu'elle recouvrait par ce terme d'islamo-gauchiste beaucoup d'autres choses qui sont en train d'imprégner aussi l'université française, à savoir l'indigénisme, le postcolonialisme, les analyses de genre, qui sont en train de donner, si vous voulez, une grille d'interprétation scientifique à peser sur l'ensemble des recherches d'une manière qui est un tout petit peu, et même très, très souvent, orientée. Et c'est au fond, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle avait un peu en tête, et donc qu'elle a un peu mélangé tout ça. Je pense que la c'est, j'allais dire, la fameuse manifestation dans laquelle Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ont participé à cette manifestation sur l'islamophobie et ont montré qu'un mouvement politique d'ampleur comme lui pouvait se rapprocher de ces thèses. Tout ça a joué dans cette espèce de mayonnaise là qui a monté. Mais c'est quelque chose qui existe dans l'université française qu'on ne peut pas nier.
Et que vous constatez, vous-même, qui êtes universitaire.
Bien sûr que l'on peut constater.
Mais comment, concrètement?
Mais qui n'est pas systémique. Et donc
je vous donne la parole
faire
dans un instant, Michel Cotta. Mais puisque j'ai deux universitaires sous la main, qu'est-ce que vous constatez, vous, concrètement, dans vos enseignements,
à la multiplication, par exemple, des études sur ces thématiques, sur les thématiques dont je viens de parler, et aux références que l'on peut trouver dans ce type de travaux. On le constate à la fermeture d'un certain nombre de champs de recherche à ceux qui ne pensent pas comme cette doctrine-là, comme cette doxa. On le constate à un certain nombre d'éléments, d'événements qui ont eu lieu. Lorsque Sylviane Agacinski, par exemple, n'a pas pu aller faire une conférence à Bordeaux,
oui.
On voyait bien que des petits clans un peu minoritaires, comme ça, pouvaient influer sur l'organisation générale de l'université. Mais je le répète, d'abord, il y a eu mélange, vraiment, autour de cette histoire d'islamo-gauchisme. Mélange, confusion des genres de la part de la ministre. Et puis, deuxièmement, c'est une erreur de systématiser ce qui, pour l'heure, est un mouvement dangereux, qui pourrait être dangereux intellectuellement, mais qui pour l'instant n'est que marginal, à mon sens.
Michel Cotta.
Ils ont tout dit, tous les deux. Mais ce qu'il faut surveiller tout de même, et moi c'est en ça où je ne donne pas complètement tort à la ministre, je lui donne tort sur le moment où elle l'a dit, sur la façon... Mais le problème est de savoir si... moi ça ne me gêne pas qu'on s'occupe du colonialisme, de l'anticolonialisme. Ça ne me gêne pas qu'on s'occupe du racisme dans les sciences sociales. Au contraire, je trouve que c'est important. Nous avons tous connu le colonialisme. C'est normal. En revanche, ce qui me gêne, c'est qu'il ne peut y avoir que ça. La diversité doit être... On doit assurer la diversité dans les recherches. Et on doit s'assurer que les chercheurs qui sont, par exemple, très anti-islamiques, ont autant de crédit que ceux qui se rapprochent des islamistes. Voilà, c'est ça qu'elle voulait dire.
Et aujourd'hui, ils ne sont pas totalement libres, ces enseignants-chercheurs?
Non, on dit
non.
Par exemple...
Non, la question
essentielle,
Michel a tout à fait raison. La question du pluralisme.
Ils ont des crédits ailleurs, c'est la question. Ils ont des crédits ailleurs. On sait que certains chercheurs n'ont pas de crédit en France. Bon, voilà, c'est minoritaire, c'est tout à fait minoritaire. Mais qu'elles le disent, encore une fois, elle aurait mieux fait de le dire ailleurs, mais ça ne me paraît pas attentatoire absolument à la liberté de l'université, c'est plutôt le contraire.
La gauche crie à la chasse aux sorcières, 600 enseignants ont signé une pétition, ils réclament la démission de la ministre de l'enseignement supérieur. Jean Garrigue.
J'allais dire, elle les a provoqués, elle a été un peu leur idiot utile, comme on dit. Je veux dire qu'en posant le problème de cette manière, frontale, un peu caricaturale, forcément, elle s'attirait une réaction. Et une réaction qui, par certains côtés, manquait d'objectivité vis-à-vis de la réalité des choses. Nier le problème est aussi grave que le poser d'une manière caricaturale comme elle l'a fait, à mon sens. Parce que ce problème existe, parce qu'il existe un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, de laboratoires de recherche qui sont assez sensibles à ces idées. Pas forcément d'ailleurs à celle de l'islamo-gauchisme, mais à la montée en puissance de ces grilles d'analyse fondées sur la race, sur le sexe, sur le genre, ben vous avez quelque chose là qui risque de devenir hégémonique et d'empêcher justement ceux qui ne pensent pas comme il faut.
Mais les accusations de militantisme, j'ai l'impression que
ça a toujours existé. Il y a une intolérance qu'on voit, alors qu'il n'est pas dans les recherches, dans les recherches, mais enfin, c'est vrai qu'il y a une intolérance chez les organisations étudiantes, quand on voit que l'UNEF arrive à faire des conversations entre hommes et puis des réunions entre femmes, que sa présidente est voilée. Ouais. Bon, on voit bien, il y a une atmosphère d'intolérance. À Sciences Po, franchement, je sais qu'on connaît cette école les uns et les autres, mais quand Finkielkraut ne peut pas arriver et ne peut pas parler... ça, franchement, ça pose un problème.
Mais cette atmosphère tendue, elle n'existait pas déjà dans les années 80 avec les trotskistes,
bien sûr,
avec
si vous voulez. Dans le domaine des sciences sociales, il faut bien voir, on dit sciences sociales. Enfin, ce ne sont pas des sciences comme la science physique. Et donc, bien sûr, les affects, les passions de chacun sont extrêmement présents. dans les travaux. Et moi, quand j'étais étudiant, dans les années, à la fin des années 60, par exemple, le marxisme structuraliste était extrêmement présent. Et de temps en temps, j'avais l'impression, non pas d'être à l'université, mais d'être dans une cellule, je ne sais pas quoi, des jeunesses communistes, vous voyez, par exemple. Hein. Bon. Mais d'abord, le débat était d'assez grande qualité. Il y avait tout de même des hommes comme Althusser, Poulantzas. Là, on a l'impression parfois que c'est des débats portés, du moins sur le terrain français, par des petits maîtres et des tout petits maîtres. Et d'autre part, on a eu des acquis dans les années 80-90 dans l'université française. Peu à peu, le pluralisme a fait des progrès. On pouvait discuter. Et là, on a l'impression, à nouveau, depuis quelques années, qu'une doxa, une opinion dominante s'est établie et il faut rester dans les clous. Si vous sortez des clous, vous êtes ostracisé, vous allez le payer dans votre carrière, etc. Parce qu'il faut bien voir derrière tout ce qu'il peut y avoir comme stratégie assez minable.
En tout cas, moi, quand je vous écoute ce soir, je me demande si ça mérite qu'on en parle autant.
Peut-être
Jean Garrigue.
Peut-être pas, mais c'est une vraie question parce qu'évidemment, derrière ça, il y a des enjeux de pouvoir dans le monde universitaire et dans le monde
politique
intellectuel.
Oui,
et puis, ça renvoie évidemment au grand débat politique. C'est le mélange qui n'est pas bon. Je veux dire qu'il y a un débat politique sur ce que peut être l'islamo-gauchisme, ce que peut être en tout cas la complaisance d'une partie du personnel politique français face à des thèses islamistes ou du radicalisme islamiste. Mais d'un autre côté, il y a cette sphère intellectuelle, les chercheurs, et le débat y a toujours existé. Donc il est bon de ne pas mélanger les deux sphères.
Merci en tout cas, merci beaucoup. Vous aviez promis de ne pas hystériser le débat. On ne l'a pas fait, donc merci infiniment à tous les trois. On se retrouve très vite et dans un instant, c'est toute l'info avec le journal de 19h. A tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.